Hey, Joseph, this is Josh. I just want to check that you're able to hear us okay.
Yep, perfect.
Great, thank you.
Oh. It looks like we have a bunch of people who are...
Pareil qu'il y a des personnes qui ne sont pas assises, donc on va leur demander de reprendre leur place pour qu'on puisse commencer. Hello! Vous m'entendez?
Lunch! Ok, this is Alyssa.
Bien, ici Alyssa au micro. Nous allons commencer. Et je vois notre ordre du jour qui montre qu'on a maintenant 1h45 minutes pour discuter différents points liés à notre période de consultation publique qui aura lieu une fois qu'on aura fini avec la l'évaluation de la proposition consolidée. On parle donc de ce point-là à ce moment, pas parce qu'on soit prêt à avancer avec la période de consultation publique, mais parce qu'on veut planifier autant que possible pendant qu'on attend à recevoir la proposition de la communauté des noms. Donc on a deux documents que j'ai fait circuler sur la liste de diffusion il y a quelques jours et nous allons les réviser rapidement pour que tout le monde ait les mêmes connaissances de base. D'abord, on a une version préliminaire du résumé exécutif qui pourrait être inclue dans la proposition consolidée pour la transition. Et je voudrais que l'on voit la table de matière, l'index, qui est au tout début du document, s'il vous plaît. Pardon, je change les instructions et je ne le fais jamais savoir à l'avance au secrétariat, donc c'est ma faute.
It's like the page before this page, I think.
C'est la page avant celle-ci. Ah, voilà.
So just to review what we're talking
about. Merci. Alors, on va réviser ce dont on parle ici. Nous avons les deux propositions des deux communautés. Lorsqu'on aura la proposition de la communauté des noms, nous allons l'ajouter pour avoir les trois composantes réunies dans un seul document de Word. Et au tout début de ce document, donc il devrait... Il faudrait qu'il y ait un texte pour la NTIA et pour le reste du monde expliquant ce qu'est ce document, etc. Donc on a commencé à discuter de ce qui devrait être inclus dans cette partie qui s'appelle le résumé exécutif. Si on voit le résumé exécutif, il y a une quantité d'éléments qui ont été discutés lors du dernier appel, qui étaient les premières idées de ce qui pourrait être inclus ici. Il y a un résumé du processus qui aura eu lieu au moment où la proposition sera publiée pour commentaire public. Et puis, il y a un espace, si on défile, pour le résumé de la proposition lui-même. Et je pense qu'on est à peu près d'accord de ne pas entrer dans les détails ici. Ce ne sont que des titres qui vont nous rappeler de ce qui devrait être inclus. Mais il n'y a pas le texte lui-même. Et puis, on a un texte qui résume notre évaluation. C'est une évaluation qui sera faite par sept bénévoles qui vont évaluer notre travail, vont faire un rapport de notre évaluation de la proposition. et qui vont rapporter de comment cette proposition accomplit la mission qu'on nous avait assignée. Et puis un résumé de notre évaluation de comment la proposition suit les critères de la NTIA. Donc rien de tout cela a été fait, mais l'idée est d'établir la structure pour pouvoir avancer autant que possible pendant qu'on attend à recevoir la proposition de la communauté des noms. Voilà ce que je propose pour la proposition de la transition elle-même. On pourrait peut-être ajouter un texte sur la mise en œuvre. D'après ce qu'on a discuté ce matin, il semble que les personnes voudraient avoir plus de renseignements sur les informations à partager avec la liste de diffusion. Mais en termes généraux, au moins dans la première partie, on devrait suivre les orientations de Daniel qu'il a envoyé sur la liste de diffusion. Il nous disait d'utiliser le texte qu'on avait déjà, le prendre de notre charte, de l'annonce de la NTIA, etc. Et de notre processus de finalisation pour que cela soit suffisamment bref, mais qu'en même temps, la communauté ait toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir comprendre la proposition comme un point de référence. Alors, si on voit les matériels de la proposition qui sont sur la page web.
Thanks. So
merci. Alors, une partie de la discussion qu'on a eue à ce sujet était qu'il y a d'autres informations que certaines personnes qui n'ont pas suivi chaque étape pourraient avoir des doutes au sujet de la proposition et donc il faudrait qu'ils aient ces informations pour pouvoir comprendre ce dont on parle. Donc dans cette proposition, on a différentes parties des documents qui sont proposés pour publication sur notre site web au moment de publier la proposition. Donc il y a des liens vers la proposition de la transition. Ce document sera traduit, on l'aura disponible en différentes langues. Puis il y a une partie du contexte où on pourrait peut-être expliquer le contexte duquel est surgie cette discussion, s'il nous semble nécessaire pour que le public comprenne notre travail. Et si on défile un peu, et puis, vous savez, des informations habituelles pour la consultation publique, la date butoir, par exemple, les instructions à suivre, un récapitulatif de la proposition qui pourrait peut-être utiliser et reprendre le texte du résumé exécutif. Et ce qui est plus important, ici, en bas de la page, si on continue de défiler, vous verrez qu'il y a des questions qui seront posées à la communauté sur lesquelles on voudrait que le public s'exprime. On pourrait peut-être voir ces questions en détail, mais pour commencer, j'ai inclus des questions qui venaient directement de notre évaluation. Donc, on voudrait savoir qu'est-ce que le public pense des différentes parties de la communauté, s'il trouve que les différentes parties sont compatibles, s'il voit qu'il y a des mécanismes potentiels, si tout pourrait bien s'articuler. Ce sont les questions dont on discutait ce matin. Il est important de savoir à ce point-là que les différentes parties de la proposition qui composent la proposition ont été publiées à plusieurs reprises même dans les différentes communautés opérationnelles. Donc ici, on se centre plutôt sur les points pour lesquels la communauté n'a pas eu l'occasion de s'exprimer parce que peut-être ils se sont exprimés sur d'autres composantes et leur évaluation générale par rapport à la proposition. Au lieu de se centrer, vous savez, sur les détails des propositions individuelles qui ont déjà été résolues au sein de chaque communauté. Alors, c'est la première partie des questions que je viens de décrire. Il y a aussi une autre partie de questions qui porte sur les critères de la NTIA. Il me semble qu'il serait très important pour nous d'entendre les retours du public, de voir si les personnes sentent que les critères de la NTIA ont été respectés. Donc, il faudrait demander pour chaque critère inclus dans l'annonce de la NTIA si les personnes sont d'accord avec le travail qu'on a fait et avoir leur retour. Donc voilà ce qui serait publié sur notre site web au moment de la consultation publique et donc pas au moment de la publication de la proposition elle-même. Donc je pense que cela adresse la question dont on parlait tout à l'heure, des différents publics de la proposition. On pourrait publier quoi qu'on veut sur le site web pour que tout le monde comprenne ce qu'il doit comprendre, mais peut-être que ces informations pourraient être maintenues à un niveau minimum. Alors, je voudrais que l'on discute de cela avant de voir le reste. Peut-être qu'on pourrait revenir au début et lancer la discussion à partir du résumé exécutif. Je serais contente de toute façon d'entendre vos commentaires, vos remarques sur l'idée générale, sur le moment où on passerait à la consultation publique et puis spécifiquement sur le résumé exécutif et sur le reste du document. Alors, Yari, je vois que vous levez votre carte de nom. Je ne sais pas si c'est nouveau ou c'est d'avant la pause. Joe, bien.
Joe,
allez-y. Merci. C'est Joe qui prend la parole. Alyssa, j'ai juste une remarque à faire. Je pense que les deux documents sont bons. On va les peaufiner dans le temps, mais je voudrais m'assurer que la proposition de transition soit complète. Alors, il me semble que tout ce qui manque ici est de savoir que lorsqu'il nous faut des commentaires, il faut savoir où les envoyer. Cela devrait être expliqué dans la proposition, dans le document, pour que les gens puissent suivre. Comme document, ça pourrait être répété sur le site web ou dans un autre document publié, mais ce serait utile d'avoir ces informations dans ce document aussi. Alyssa prend la parole. Merci, Joe. Y a-t-il d'autres commentaires sur ce point-là, sur le résumé exécutif ou sur le plan général? Milton? Bon, je pense, Milton Mueller prend la parole. Sur le résumé exécutif, j'ai une remarque toute simple. Et c'est que les résumés des processus en général ne sont pas très clairs, surtout lorsque ce sont des documents qui sont en annexe avec des propositions de 150 pages. Je viens d'envoyer une proposition à la liste de diffusion, et c'est le fait que sur notre site web, et j'ai envoyé le lien, il y a une page où on résume le processus, où on montre à chacune des communautés quel est le processus de la proposition, où on ajoute des liens à notre appel à proposition et on voit les détails du développement, de l'élaboration de cette proposition pour laquelle les personnes peuvent voter si elles trouvent que ce processus a été suffisant, s'il faut que l'on résume le processus suivi et peut-être que notre résumé serait un peu trop court, au moins c'est mon avis. Mais je comprends le besoin de le résumer autant que possible. Mais je voudrais savoir si on ne pourrait pas débroussailler ce texte davantage. Alyssa prend la parole. Oui, c'est vrai que l'idée de pouvoir exprimer tout ça, de le diviser en paragraphe et de montrer pourquoi on a ces trois parties de la proposition, ce qui montre en fait l'idée du processus. Cela explique qu'il y a trois parties parce que notre appel à proposition a demandé à trois communautés de répondre. Donc c'est difficile d'expliquer pourquoi on a trois parties à moins que l'on parle du processus. Bien sûr, cela pourrait être résumé, peut-être expliqué uniquement à travers un lien à notre site web, mais je pense qu'il faudrait l'inclure. Milton prend la parole, oui, mais je pense que pour le site web, il va falloir que l'on explique pourquoi il y a trois parties. Mais je ne pense pas que le site web lui-même, de ce document lui-même, ait besoin d'une explication. Ce n'est pas quelque chose d'important pour moi, mais c'est plutôt question de dire, bon, voilà la proposition, on ne va pas revenir sur le processus. À moins que la NTIA, bien sûr, ait besoin d'une documentation du processus, ce qui ferait partie de la légitimité de la proposition. Autrement, je ne pense pas que ce soit censé de l'inclure dans la proposition. Alyssa prend la parole. Bien, c'est une bonne remarque. Russ Mundy prend la parole. Merci. Il me semble que cela parle beaucoup de la proposition, du processus de la proposition. Et peut-être que S'il faudrait plus que simplement un site web, s'il est nécessaire d'avoir une documentation du processus suivi, ce serait peut-être mieux d'avoir un document indépendant qui réunisse tout le travail qui a été fait et tout ce qui a été dit. Je serais pour cette idée de créer un site web avec ces informations, mais je sais qu'il y a des gens qui vont s'inquiéter par la mesure dans laquelle on peut archiver les documents dans un site web. Donc peut-être qu'il faudrait que l'on considère comment pourrait-on demander au secrétariat de réunir les différentes parties qui existent à ce jour pour créer un document qui sera un document indépendant qui décrive le processus qui a été suivi. Au lieu que d'ajouter davantage d'informations à la proposition elle-même. Pardon, c'est Alissa au micro. Juste pour préciser, vous pensez que le résumé du processus serait utile dans ce document ou qu'est-ce que vous incluez dans ce document indépendant? Ross Mundy prend la parole. Bon, la plupart de tout ce qui parle du processus lui-même, donc tout ce qu'il nous faudrait inclure dans ce résumé exécutif serait uniquement ce qui porte sur les questions que la NTIA a posées, tout ce qui nous aidera à répondre à ces questions. Donc, si vous sentez qu'il est important de parler brièvement du processus pour fournir un peu de contexte de pourquoi ce processus a été ouvert et multipartite, eh bien, ainsi soit-il. Mais peut-être que ce ne serait pas censé de continuer d'ajouter d'informations à la proposition elle-même. Bien, c'est compris, dit Alissa. Daniel? Daniel prend la parole. Bonjour. Je suis un peu dérouté ici. Il me semble que la version préliminaire, comme point de départ, était un très très bon document. Je pense que dans la proposition elle-même, on devrait également parler du processus qui a été suivi pour pouvoir arriver au résultat qu'on a. Je pense qu'il serait important que la NTIA sache de cela. Donc c'est important que ce soit nous-mêmes qui allons expliquer cela. Comment nous, en tant que membres, le voyons, comment les communautés l'ont fait aussi, parce que c'est quelque chose qui est évalué. Et le résultat de cette évaluation devrait être inclus dans le plan final. Donc au moins, à mon avis, cela devrait être inclus dans la proposition finale. Voilà pourquoi je suis un peu déroutée ici par ce que disent mes collègues. Autre chose qui me confond est ce que disait Joseph, qui veut avoir dans la proposition, dans le document lui-même, des informations sur l'endroit où on peut envoyer les commentaires ou les remarques qu'on pourrait avoir. Donc, pour la période de commentaires publics, ce n'est pas nécessaire d'avoir ces informations. On ne va pas les envoyer à la NTIA. Donc, à mon avis, au moins, cela pourrait être inclus dans un document supplémentaire indépendant où on expliquera ce qui vient des commentaires publics. Voilà, je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez faire. Alissa prend la parole. Merci, Daniel. Peut-être que Jo peut reprendre la parole par la suite pour vous expliquer cela, pour répondre à votre deuxième question. Mais j'ai avant Jean-Jacques, Martine, Chodong et Cabous. Jean-Jacques, allez-y. Bonjour. Oui, merci, Alissa. C'est Jean-Jacques ici. D'abord, je voudrais soutenir fortement ce que disait Daniel. Devrait-on dans notre rapport inclure un rapport du processus? Nous sentons jusqu'à présent que cela fait partie de notre devoir que d'expliquer comment cela correspond aux exigences de la NTIA dans notre première demande. Et puis, on a aussi cette idée d'utiliser les annexes ou les pièces jointes avec une plus grande liberté. Et donc, dans la partie du résumé exécutif, du résumé du processus, on pourrait peut-être inclure ce que Daniel proposait, l'explication des différents processus qui nous semblaient vraiment importants, et à chaque fois qu'il y a des références disponibles, on pourra ajouter le lien. En outre, dans ce même texte, on pourrait inclure un numéro de référence pour l'annexe, ce qui nous permettrait d'inclure dans l'annexe le texte complet ou les textes complets. C'est une suggestion que j'ai faite pendant notre dernier appel. Merci. Alissa prend la parole, merci. Martin?
Martin Boyle here.
Merci Alissa. C'est Martin Boyle au micro. Je pense que pour moi, le concept qu'on voit ici comme résumé exécutif est très important. Il est important parce qu'un résumé exécutif devrait, en tout cas, expliquer les questions qui sont d'intérêt spécial et expliquer également la réponse à cela en une phrase. Je suis d'accord avec Milton, je ne pense pas que l'on doive reformuler ce qui a déjà été exprimé dans des propositions qui étaient assez détaillées, parce que cela implique des risques, parce que c'est une simplification. Mais pour moi, il serait possible que l'on doive identifier clairement, par exemple, pour ce qui est du processus, qui ne me semble pas extrêmement important, au moins moi. Et je ne pense pas que les personnes qui veulent suivre le processus le trouvent extrêmement important non plus. Donc, mais l'aspect clé pour le processus est que c'était les communautés opérationnelles qui ont défini leur propre processus et qui se sont mis en contact avec leur propre communauté. Et donc, après, les personnes pourraient avoir davantage de détails si le processus est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Pour moi, au moins, en tout cas, je voudrais dire que il y a des aspects sur lesquels il faudrait que l'on approfondisse davantage. On n'a pas de texte de base ici ou d'idées particulières à utiliser, mais il faudrait que l'on considère sérieusement l'évaluation des propositions. En particulier, je pense ici à l'identification des différentes approches et à la manière dont elles s'intègrent. Je suis conscient d'ailleurs, et j'essaye de chercher cela il y a quelques instants, mais je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, pour la proposition de la communauté des noms, la partie 3A explique les éléments de la proposition, ce qui est une partie assez courte et qui pourrait être ajoutée telle qu'elle, et on devrait essayer de trouver des similarités pertinentes dans d'autres documents qui identifient comment les trois propositions pourraient s'intégrer entre elles. Et puis, d'autre part, je voudrais rapidement parler de la discussion qu'on a eue avant la pause sur la mise en œuvre ou le processus pour arriver à la mise en œuvre. Et il me semble qu'un résumé exécutif devrait identifier et souligner les étapes à suivre et ce qui doit être ajouté, que ce soit uniquement la charte et ce qui s'intègre. Mais il faudrait que l'on tienne compte du document qui va être envoyé à l'NTIA. Donc il faudrait que l'on puisse leur montrer quelles sont les étapes qui devront être suivies et quand ils comptent essayer d'abandonner ce processus politique à Washington. Donc voilà les aspects sur lesquels il faudrait que l'on se centre ici, au moins avant d'envoyer la proposition. Merci. Merci. Juste un commentaire par rapport à ce que vous venez de dire. Résumé des composantes individuelles de la proposition consolidée, c'est vrai, on devrait peut-être essayer de copier-coller une partie de chacune de ces propositions et puis voir comment elles s'intègrent. Et ce serait très bien, on pourrait les résumer par la suite. Il y a des documents qui parlent de la mise en œuvre elle-même, donc peut-être qu'on pourrait réutiliser les textes que nous avons déjà. Oui, Xiaodong. Xiaodong Li prend la parole, juste pour confirmer. Tu en as des commentaires uniquement pour... On fait des commentaires ici uniquement pour le résumé du processus ou pour tout le document? Allez, Sa Cooper dit non, vous pouvez intervenir sur n'importe quelle partie du document. Xiaodong Li prend la parole. J'ai un commentaire pour le résumé du processus. Dans le deuxième paragraphe, on parle du fait que la mission du résumé du processus sera divisée en trois. Ce qui m'inquiète est qu'il faut que l'on demande aux différentes communautés de résumer elles-mêmes. Ou alors serait-ce que l'ICG va résumer toutes ces trois parties du travail? Alissa Cooper prend la parole. Non, je me disais que peut-être on pourrait identifier un volontaire de chaque communauté de notre groupe, un bénévole de chaque communauté, et que cette personne essaie de rédiger un document, un paragraphe, ou trouver une manière d'expliquer ce travail pour l'utiliser en tant que résumé exécutif. Au moins pour avoir une partie de chacune des trois communautés qui expliquent leur travail. Xiaodong Li prend la parole. Non, il me semblait que pour la proposition de chaque communauté, il devrait avoir une description, un résumé du document de cette communauté. Alissa Cooper prend la parole. Oui, c'est vrai, on pourrait leur demander de résumer leur proposition elle-même. Je n'ai pas reconsidéré cela. Je ne sais pas si c'est inclus dans leur proposition. Xiaodong Li, merci. Alissa Cooper prend la parole. Kavous. Kavous Araste prend la parole. Merci, Alissa. Je crois que ce document a deux buts. D'une part, on compte l'utiliser pour la consultation publique, et d'autre part, on veut continuer à l'utiliser après cette période de consultation publique. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour structurer la proposition qu'on enverra à la NTIA. En ce moment-là, il faudrait qu'on se concentre sur la consultation publique. Et ici, le résumé exécutif n'est pas un résumé exécutif du tout. Le résumé exécutif de n'importe quel document devrait résumer de manière exécutive le document complet. Je ne sais pas pourquoi nous nous limitons à un paragraphe. Si je vois le CCWG, ils ont 4 pages et 25 parties ou paragraphes. Et après cela, ils entrent dans l'introduction et dans le contexte. Donc je pense qu'on n'aurait pas commencé par un résumé exécutif, mais par une introduction. Le résumé exécutif ne décrit pas de manière exécutive le résumé du document. Ce n'est qu'une première partie qu'ils abordent. On parle de l'annonce de la NTIA et de la demande de la CAN de commencer à travailler. Et ce n'est pas un résumé exécutif. Donc je pense que peut-être vous devriez décider d'éliminer complètement le résumé exécutif et de commencer avec l'introduction. On pourrait très bien le faire. Introduction, contexte. Dans les autres propositions, il y a des résumés exécutifs et une introduction et une partie du contexte. Mais ce n'est pas nécessaire. Peut-être qu'on pourrait décider de supprimer le résumé exécutif ou alors de le paraphraser pour résumer le document complet de manière exécutive en une ou deux pages sans être aussi critique, sans y attacher une telle importance parce que cela ne décrit pas de manière exécutive le document. Merci. Merci Kavous et Alissa. Alors, pour préciser,
le résumé du processus et le résumé des propositions et tous les autres paragraphes seront des sous-chapitres ou des sous-paragraphes de tout ce résumé exécutif. Je pense que cela n'est pas clair à partir des titres que nous avons mis. Mais en réalité, ce sont des sous-sections ou des sous-paragraphes du résumé exécutif. Avant, on l'appelait préface. Les gens n'aimaient pas ce terme. Maintenant, on l'appelle résumé exécutif. Je sais bien que cela ne résume pas de manière exécutive le document. Alors, on va le dénommer introduction. Je passe la parole à Joe. Joe Aladef. Je ne suis pas en désaccord avec la proposition de Daniel. Mon souci est qu'il semblait que l'on regroupait dans l'autre document beaucoup de questions d'introduction et il y a des gens qui n'ont pas besoin de ce type de documentation. Je ne voulais pas perdre la logistique pour gérer ce document et qu'il soit caché au milieu de tous ces documents. Alors, il faut établir clairement comment répondre au travail. On a un paragraphe et puis après, le matériel d'introduction est un autre paragraphe. Alors, celui qui voudra nous répondre n'a pas besoin de lire toute l'introduction si cette personne a suivi de près le processus. Je voulais m'assurer que ceux qui ont participé le long du chemin avec nous et que ces personnes puissent arriver à l'information pour donner leur réponse et ne pas être obligées de voir tous les antécédents. Peut-être on pourrait le clarifier dans notre site web sans tout combiner. Et je crois que là, mon inquiétude ou mon souci serait résolu. Alissa, merci Joe. John Nevett prend la parole. Merci Alissa. Je crois que Larry a été très clair pour ce qui est de ce qu'il faut faire. Il disait que le rôle de l'ICG est central parce qu'il doit construire un registre public pour nous sur la manière dont trois présentations sont liées de manière à assurer le respect des critères de la NTIA et que ceci soit institutionnalisé à long terme. Alors, quelle est la meilleure façon d'aider la NTIA à créer ce registre public? Peu importe si c'est avec un préface, un résumé exécutif, peu importe. Mais ce qui importe ici, c'est que nous sommes face à un rôle que le gouvernement des États-Unis nous a commandé. Le gouvernement donne des notifications de ses intentions tout le temps. Et il y a des gens qui font ça pour vivre de manière périodique. Alors, un groupe devrait essayer de recevoir du conseil d'experts sur ce processus et nous aider à le faire d'une manière efficace et pouvoir générer ce registre public. Peut-être avec de l'aide supplémentaire, nous indiquant quelles sont les questions à poser quand on demande un commentaire public. Et de cette manière, pouvoir recevoir les réponses que nous voulons. Alors, peut-être quelqu'un pourra nous aider avec les centaines d'heures nécessaires pour analyser toutes les réponses que nous allons recevoir. Je ne suis pas très sûre sur la procédure à suivre, mais si vous êtes d'accord avec cette idée d'avoir recours à un professionnel désigné pour quelques mois pour nous aider à ce processus. Mais je crois que il faut quelqu'un qui ait beaucoup d'expérience et beaucoup d'informations avec ce type de contenu. Et je crois que cela serait très utile pour nous permettre de transmettre la réponse à la NTIA de manière appropriée. Alissa Cooper, je veux savoir quelle est l'opinion des autres sur cette proposition. Et puis après, si vous voyez les questions proposées pour consultation publique, avant de les décider, j'ai vu des NOI de la NTIA pour avoir une idée de ce qu'ils demandaient dans ces notifications. Et avant que ces questions soient mises à disposition du public et que les gens puissent donner leurs opinions. Et pour ce qui est de l'administration des commentaires et les réponses, nous avons parlé avec le secrétariat pour nous préparer à ce processus. Nous avons demandé au secrétariat de faire une synthèse des commentaires. Comme on l'a fait au CWG et au CCWG, mais je peux considérer d'autres idées si vous en avez. Je passe la parole à Martin. Pardon? Non? Il ne va pas parler. Cavus? Vous demandez la parole? Allez-y. Cavus prend la parole. Merci, Alissa. Je crois que lorsqu'on commence à voir les questions, à mon avis, après avoir considéré les propositions du CWG et du CCWG et les commentaires reçus, l'élément le plus important de ce document sont les questions. Quelles sont les questions à poser? Ces questions doivent être posées très clairement pour que la communauté et les individus puissent bien les comprendre. Je vous demande d'aller voir les questions. Et là, vous trouverez 5 éléments. On va prendre un des éléments de la NTIA et nous demandons, croyez-vous que la communauté dans son ensemble soutient ceci? Peut-être il faudrait pas le dire comme ça. Il faudrait dire, vous soutenez cette proposition et à partir de la réponse reçue, nous allons conclure qu'il y a un vaste soutien à la proposition. Par exemple, le CCWG, avec les propositions envoyées, eh bien, il y a 45 commentaires reçus, 29 pour, 20 avec certaines inquiétudes, 7 qui ne sont pas d'accord. Ceci dit, alors, je ne sais pas si peut-être il faudrait mettre les questions dans deux catégories. Tout d'abord, quelle est votre opinion par rapport aux propositions individuelles pour les 3 communautés opérationnelles? Et puis, quel est votre commentaire par rapport à l'ensemble de ces 3 propositions? Parce que cela peut être important. Peut-être il y en a qui n'ont pas de problème avec une des propositions, ou deux des propositions, mais des observations à faire à propos de l'autre proposition. Alors, il est difficile de comprendre comment la communauté devrait analyser ses réponses. Il faudrait peut-être considérer de diviser les questions en 2 catégories. Une catégorie par rapport à chaque proposition individuelle et puis avec pour la proposition dans son ensemble. L'ensemble des propositions. Il est important de poser les questions d'une manière déterminée et puis avec les réponses reçues, on pourra voir plutôt comment ceci concerne effectivement la proposition des communautés. Alissa, merci Cavus. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je crois que c'est beaucoup mieux de demander aux gens s'ils soutiennent la proposition au lieu de poser la question comme nous l'avions fait auparavant. Il est important que le public centre son attention dans les éléments qui n'ont pas été soumis aux commentaires publics. Les détails des propositions individuelles sont à la disposition de la consultation publique à plusieurs reprises. Alors, je ne suis pas très sûre de séparer les questions et de poser des questions sur des composantes spécifiques parce que ce que l'on veut, c'est une évaluation générale des propositions dans leur ensemble. Mais je voudrais connaître votre avis là-dessus. Joe Aladev. Merci, Alissa. Pour ce qui est de la question abordée avec Cabous, pour ce qui est de la question sur les propositions individuelles, je crois que ce n'est pas la question de la proposition, mais plutôt le processus. Les gens ont pu utiliser le processus. Ils considèrent que les commentaires ont été reflétés dans ce processus parce qu'une partie de ce qu'il faut suggérer, c'est que les processus ont fonctionné correctement. Et en ce moment, il n'y a pas de raison pour penser que cela s'est passé autrement. Mais nous pourrions voir les processus individuellement à partir de cette perspective parce que Une des choses qu'il faut déduire, c'est justement l'orientation de la communauté. Comme vous l'avez débattu, il n'est pas important si les gens sentent que le document est pertinent ou pas, mais plutôt si leur expérience dans le processus a été cohérente. Et alors, ils peuvent donner leur avis légitime. J'ai peur que la manière dont le document a été rédigé amène les gens à donner des réponses narratives, ce qui veut dire que nous allons essayer de trouver dans cette narrative la réponse à la question 4. Et peut-être qu'ils n'ont même pas répondu à cette question. Alors, on pourrait utiliser peut-être un format comme un formulaire où on répondre à côté de la question, une réponse qui n'est pas un format libre. Et cela éviterait que les gens présentent des réponses trop longues. Alors, on pourrait mettre en rapport les questions et les réponses et les résumer plus facilement au lieu des réponses libres. Alyssa Cooper, merci Joe. Voilà une bonne question. Il aurait fallu le présenter auparavant. On a parlé d'un formulaire avec Wolf Ulrich, un formulaire, un modèle pour recevoir les commentaires. Je crois que c'est une bonne idée et qu'il faudrait trouver un formulaire basé sur le web pour nous faciliter la tâche. Et il faudrait aussi permettre aux gens de donner leurs commentaires en format libre. J'ai Patrick, Rosemondi et Milton. Patrick Falstrom prend la parole. Pour ce qui est des questions posées et de la manière dont elles sont posées, une des manières de le faire, ce serait voir notre charte. Nous, on ne peut pas demander des commentaires sur des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Alors, on ne peut demander des contributions que sur des questions que l'on peut aborder. Voilà donc la portée à laquelle j'ai pensé. Alyssa Cooper, merci. Rosemondi. Rosemondi prend la parole. Une des questions que je veux signaler, c'est ce dont Kavos a parlé, à savoir la manière dont on pose les questions. Cela est très important. C'est une question centrale. Et il faut donner une attention spéciale à la question pour que la manière dont elle est posée nous permette d'obtenir l'information que l'on veut. D'autre part, et je crois que cela a été également signalé par Kavos, c'est de savoir si on va structurer ces questions pour aborder la question d'un point de vue général ou les propositions individuelles qui seront incluses dans la proposition combinée. À mon avis, si nous allons encourager ceci, on ne peut pas éviter ou interdire que des gens nous donnent des commentaires individuels sur une des propositions. Ça, c'est bien, mais il ne faudrait pas structurer les questions que nous posons pour demander ce type de commentaires. Parce que s'il y a une proposition individuelle, alors il faudra revenir à la communauté opérationnelle qui a rédigé la réponse. Milton Müller prend la parole. Je veux m'opposer à la formalisation des contributions que nous allons recevoir pendant la période de consultation publique. Parce que si nous encourageons plusieurs réponses, il semblerait que ce n'est pas bien. Mais vraiment, je dois dire, oh mon sang, si on fait ça, il faudra relire tous les commentaires. Et oui, il va falloir lire les commentaires. Et il va falloir en tenir compte. Dans une partie des processus de CWG, je crois qu'il y a une surformalisation, entre guillemets, du processus de réception des contributions. Je crois que ce n'est pas bien, parce que cela et vite de pouvoir comprendre en profondeur ce que les gens veulent nous dire. Il nous faut lire les commentaires, il va y avoir des interprétations différentes. C'est bien qu'Alissa nous ait présenté des questions structurées dans ces trois domaines. Et je crois que beaucoup de ces questions, pas toutes, et beaucoup des commentaires répondront à ces questions. Mais je crois aussi que nous pouvons recevoir des réponses narratives plus vastes et il va falloir faire attention. Alissa Cooper reprend la parole. Je suis vraiment intéressée de savoir ce que pensent les gens, vraiment. Mais ceci nous crée un impact sur la manière dont nous allons faire face à ces commentaires publics, à cette période de consultation publique et comment nous allons inclure ceci dans l'évaluation préliminaire que nous avons faite avec le secrétariat. On a beaucoup parlé du niveau de détail dont on a besoin pour pouvoir analyser les commentaires et les structurer. En comparaison avec la compréhension des commentaires dans la catégorie, là où nous déciderons les introduire, il faut résumer des commentaires et cela peut devenir difficile. D'autre part, si les commentaires sont plus structurés, alors les gens ne pourront pas nous donner des commentaires et ce sera plus facile pour nous de voir les pour et les contre et voir comment ça se passe avec ces commentaires. Comment les analyser? Dans la dernière période de commentaires publics du CWG, la moitié l'ont fait à partir des modèles. Nous voudrions faire quelque chose de similaire pour faciliter notre travail, ce qui ne veut pas dire ne pas considérer les contributions reçues. Cavo, Sarah Stepp prend la parole. Je suis d'accord avec Patrick. Les questions que nous allons poser doivent être cohérentes avec notre charte. Pas exactement le même texte, mais elles doivent être cohérentes. Ceci est clairement établi et je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je vais partager avec vous l'expérience que nous avons eue au CCWG. Après avoir reçu les commentaires, d'après la manière dont on a posé la question, le CCWG a dû consacrer 5 ou 6 séances ou appels de 2 heures chacun pour le document qui parle de la catégorisation des commentaires publics. Parce que ce n'était pas clair. On n'a pas pu mener un débat. Il fallait les catégoriser. Alors, on a perdu beaucoup de temps dans cette démarche. Et si l'on demande dès le début des commentaires plus clairs, alors notre travail sera simplifié. Je vais vous donner un autre exemple pour la proposition. Imaginons que nous posons une question et la réponse est non, on n'est pas d'accord. Mais on ne peut pas dire si cet accord est pour la communauté A, B ou C. Alors, comment pouvons-nous identifier la situation? On pose une autre question ou on essaie d'interpréter la question reçue? Le plus grand effort du CCWG a été de ne pas interpréter les commentaires reçus, mais par contre, essayer de le comprendre, parce que d'autre part, l'interprétation peut être dangereuse. Un grand nombre de gens ont identifié la question et... C'est une question assez limitée, encore plus au sein de l'ICG. Alors, l'interprétation peut devenir vraiment dangereuse. Voilà donc pourquoi il faut être clair. Si nous ne voulons pas avoir 2 ou 3 catégories, alors là, il faut dire « Vous êtes d'accord, blabla », et puis ajouter « Si possible ». Dites-nous si votre désaccord a trait à un point spécifique ou si c'est un désaccord général pour que la réponse soit claire pour nous. Je suggère donc quelque chose qui vient de l'expérience en fonction du temps et il faut dire que nous avons consacré beaucoup de temps au CCWG et au CWG. Je ne voudrais pas répéter l'expérience. Alissa Cooper, merci beaucoup. Rosemandy prend la parole. Je crois que si nous pouvons structurer notre demande de commentaires, de contributions, je crois que de cette manière, nous pourrions recevoir le plus grand nombre de commentaires possible dans le format préétabli. Ceci faciliterait l'analyse, mais ceci ne devrait pas interdire la réponse textuelle, comme Patrick l'a dit, et Cavus aussi. On a besoin de se concentrer dans la charte, à savoir quel est notre mandat, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et je crois que nous pouvons structurer les choses de telle manière de ne pas encourager les gens à répondre avec des textes vagues, mais tout simplement qu'ils disent précisément ce qu'ils veulent. Allez, ça, oui, pour ce qui est des critères avec la NTIA, on se demande pourquoi ou pourquoi pas. Vous croyez que la proposition respecte les critères? Pourquoi oui, pourquoi non? Et je crois que là, on pourrait générer ce type de commentaires un peu vagues. Hein? Pas toutes les questions doivent répondre oui ou non, mais je crois qu'on pourrait mieux le faire. Avez-vous des idées pour poser les questions, peut-être? Manal Ismail prend la parole. Merci. Je crois que Ross a dit ce que je pensais dire. Je ne crois pas que les deux options s'excluent entre elles. Moi, je préférerais avoir une manière structurée, des questions structurées avec un texte uniforme pour encourager des réponses structurées et faciliter notre analyse. Mais ceci ne devrait pas limiter ceux qui volontairement voudraient éventuellement donner des réponses plus flexible. Tel qu'on l'a déjà dit, même avec les formulaires structurés, il y a eu des gens qui ont décidé qu'ils n'allaient pas respecter le format, mais tout au moins on peut aider ceux qui voudraient donner des réponses structurées de le faire et faciliter ainsi notre analyse. Alyssa Cooper passe la parole à Milton. Milton, non. Daniel Karenberg prend la parole. Merci, Alyssa. Je voudrais proposer que pour toute question concernant des consultations publiques, nous donnions une structure pour pouvoir catégoriser la réponse ou le commentaire. Je crois que ce que Cavus a mentionné est vraiment important. On ne devrait pas être en position de consacrer très longtemps à essayer de voir quelle est la catégorie à laquelle appartient un commentaire déterminé. Et je crois que les dimensions que je vois pour ces catégories peuvent être des commentaires généraux, des commentaires liés à une proposition ou plus d'une communauté spécifique, des catégories auxquelles je peux penser sont par exemple demander si la personne qui fait le commentaire pense quelle est l'importance ou la gravité du commentaire, dans le sens de dire si on ne peut pas continuer de l'avant avec le processus parce qu'il y a un problème quelconque, ou si la personne qui fait le commentaire pense que l'on pourrait trouver une solution. Alors je crois que cela nous aiderait, que le fait de formuler des catégories facultatives nous aiderait beaucoup. Et s'il y a des gens qui veulent faire des commentaires sur toutes les catégories, aucun problème. Et alors, la personne qui fait le commentaire peut dire ce qu'il veut dans n'importe quelle catégorie. Alyssa Cooper, merci. C'est un processus qui a aussi été aussi utilisé dans d'autres groupes pour voir quelle est l'importance du commentaire, pouvoir le signaler, quoi. Tu n'aimes pas, Cavus? Vous voulez reprendre la parole? Cavus a resté, reprendre la parole. Un exemple simple. Si nous concevons les questions pour recevoir une réponse binaire, oui ou non, nous n'allons pas la recevoir. On va recevoir une explication. Le CCWG a donné des réponses de 23 lignes. Il y en a eu 30. Il y a eu 32 lignes dans quelques questions. Alors, il y a toujours des explications. Et nous ne devrions même pas essayer de dire que nous voulons une réponse binaire parce que cela ne va pas nous aider. Merci. Allez, ça coupe. Merci, Milton. Milton Müller prend la parole. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. On crée une case où l'on demande « Vous voulez faire un commentaire général ?» Eh bien, je crois que la personne qui fait ça ne va pas le reconnaître et va l'introduire dans une autre catégorie. Alors là, ce ne serait peut-être pas la réponse correcte, mais ce que nous voulons, c'est que les commentaires soient facilités pour nous. Hein, mais les commentaires publics sont pour recevoir les commentaires du public. Et si l'on pose des questions spécifiques, c'est peut-être une bonne approche pour les réponses. Mais nous allons devoir catégoriser les réponses avec, un processus inventé. Lorsque l'on recevra les commentaires et voir si on peut tous les lire. Et puis, si nous regardons les commentaires reçus par la communauté des noms de domaine qui ont été bien plus nombreux que ceux reçus par l'IETF, 50, 60, 40 commentaires, ce n'est pas trop. Peut-être dans la proposition finale, nous allons en recevoir davantage. Mais on ne va pas recevoir des milliers de commentaires. Cela serait surprenant. Alors, il ne faudrait pas beaucoup penser à ça. Alice nous a donné une première approche pour poser les questions. Si on pense à d'autres questions qui ont besoin de réponses, eh bien, il faut les rédiger. Alice Cooper, merci Milton. Je suis d'accord. Je crois que ce que Daniel a dit, eh bien, on va essayer. On ne va pas demander aux gens de répondre dans une case ou une autre, mais c'est à nous de le considérer lors de l'analyse. Même si ce sont des commentaires pleins de textes, alors nous devons être capables de pouvoir catégoriser ces commentaires au lieu de les bloquer. Alors, il s'agit de savoir comment faire notre analyse et pas empêcher les gens, a priori, de donner leur avis. Je crois que maintenant, personne ne demande la parole. Alors, nous allons aller de l'avant dans ce document. Nous avons une équipe de rédaction, une équipe de bénévoles qui va nous parler de l'introduction et pas du résumé exécutif. Pour la proposition, il y a certains éléments dont on a parlé aujourd'hui sur le fait d'ajouter ou de changer des questions ayant trait à la mise en œuvre, le résumé de la manière dont on parle du processus, l'information du processus pourrait peut-être être incluse dans une annexe pour que l'équipe travaille là-dessus et puis faire circuler le document mis à jour. Il faut penser quand est-ce qu'on pourra faire cela, mais je crois que ce n'est pas nécessaire de le faire pour cette réunion. Puis, il faut voir aussi les documents du site web. On va le diffuser pour voir s'il y a d'autres commentaires, mais ce serait bien que cela soit prêt vers la mi-juin, parce qu'en août, il faudrait commencer avec les commentaires publics si nous voulons respecter ce qui a été établi. Cavus prend la parole, Cavus Araste reprend la parole. Merci, ce sont toutes des bonnes suggestions. Moi, je voudrais dire que, comme les questions que nous allons poser sont indépendantes d'autres actions que nous allons entreprendre, pensez-vous ou croyez-vous que l'on aura besoin d'un petit groupe pour pouvoir formuler les questions. Et je crois que cela est vraiment important, hein, compte tenu des différentes communautés. Et ce groupe pourrait être formé des personnes les plus représentatives parce que c'est très important pour le type de questions. Considérez-vous qu'il faudrait organiser un petit groupe pour vous formuler les questions et que ces questions soient présentées opportunément, peut-être entre cette réunion et la prochaine fois où l'on discutera de la question. Jean-Jacques Subrenat prend la parole. Je crois que c'est une bonne suggestion. Mais pourquoi pas une personne de l'équipe peut formuler les questions et s'occuper de la rédaction qui sera présentée à l'ICG, parce que c'est les deux faces de la même monnaie. Alissa, je crois que c'est un bon plan.
Sachant donc quelles sont les options, on devrait continuer avec cette proposition. Alors, ce sont des tâches dont le petit groupe va s'occuper. Bien. Nous sommes maintenant à l'avance. Ce qui fait du bien. Oui, Manal, allez-y. Manal Ismail prend la parole. Merci, Alissa. J'ai juste un commentaire bref sur l'introduction. Vis-à-vis du résumé exécutif. Je ne parle pas l'anglais comme langue maternelle, je n'ai pas une opinion vraiment forte, mais je ne m'oppose pas à cette idée d'avoir un résumé exécutif. Pour moi, ça veut dire qu'on a un résumé, bref, du processus, du début jusqu'à la fin. Une introduction, d'autre part, pourrait très bien être un paragraphe introductoire qui ne résume pas nécessairement le processus complet. Donc je pense que ce serait deux approches différentes. Alissa prend la parole. Alors, vous proposez d'avoir un résumé exécutif et une introduction? Manal Ismail prend la parole. Non, au moins, je suggère de conserver la partie du résumé exécutif parce que vous avez proposé de l'entitrer introduction au lieu de parler de résumé exécutif. Mais pour moi, ce n'est pas pareil. Un résumé exécutif, c'est le résumé du document complet. Pour moi, une introduction pourrait être quelque chose d'autre. Alissa prend la parole. Oui, c'est vrai. Kavous, vous avez une autre suggestion? Je ne sais pas. Kavous prend la parole. Oui, je suis d'accord avec Manal. J'avais compris que vous aviez décidé d'inclure le tout dans l'introduction. Mais moi, je proposais que le résumé exécutif décrive, ou résume en tout cas, le document complet de manière exécutive. De toute façon, on pourrait avoir un paragraphe introductoire, voire deux, pourquoi pas. Donc je propose que cela soit fait de manière différente, comme résumé exécutif, avec un autre format, comme vous avez dit, parce que le format n'était pas bon, et puis avoir un ou deux paragraphes introductoires du document complet. Sans résumé, le document complet, bien sûr. Merci. Alissa prend la parole. Merci. Bien, oui, allez-y, Narelle. Narelle Clark prend la parole. Lorsque je rédige des documents, en général, j'écris le résumé exécutif à la fin de mon travail de rédaction du document. Et normalement, je commence par rédiger un plan du document. Et je pense que ce serait censé de le faire pour la préparation d'un résumé exécutif. On essaie de sauter à la fin du processus avant même de savoir ce que le document va contenir. On a décidé ici de discuter le sens des mots introduction et résumé exécutif. Mais je pense qu'en réalité, on n'est pas à ce point-là du débat. On ne sait pas ce que le document va comprendre. Alors, je suis d'accord avec Alissa dans le sens que ce qui a été délimité jusqu'à présent serait plutôt une introduction à un document qu'un résumé exécutif. Alors, je propose qu'on mette de côté cette discussion, pour le moment en tout cas, au lieu de nous pencher sur le fait de si c'est une introduction ou un résumé exécutif. Par la suite, une fois qu'on saura quels sont les contenus du document, on pourra revenir à cette discussion et voir si c'est une introduction ou un résumé exécutif. Je suis d'accord qu'il va absolument falloir un résumé exécutif pour ce document. Mais il faut avoir un raccourci pour comprendre ce dont on parle. Donc il nous faudra une introduction, mais ce sera également nécessaire d'avoir un résumé exécutif. Donc, on va pas tarder sur ce point-là. Merci. Alice, ça prend la parole. Merci, Naren. C'est une bonne suggestion. Et donc, peut-être qu'on pourrait laisser ça et pour que le groupe de rédaction décide ce qu'ils en veulent faire. C'est très bien. Merci. Alors, cela nous amène à la fin de cette discussion. Et nous allons avancer pour passer au point suivant de l'ordre du jour au lieu de faire la pause. Et donc, on passe maintenant à la mise à jour du travail du CCWG Responsabilité. Mohamed va nous donner un résumé de cela. Mohamed prend la parole. Merci, Alissa. Alors, en définitive, l'idée de ce point de l'ordre du jour est de donner la parole aux différents membres pour que l'on puisse discuter des progrès du travail du CCWG Responsabilité. Récemment, le groupe a publié une version préliminaire de leur travail pour commentaires publics. La période de consultation publique est maintenant finie et ils avaient également indiqué que le calendrier de présentation au conseil d'administration était avant une certaine date butoir. Alors, il faudrait que l'on discute ici des progrès tels que vous les voyez. On voudrait savoir quelles sont vos remarques.
Kavous, please.
Oui, Kavous, allez-y.
Mohamed, I think when in one of the meetings you check.
Kavous prend la parole. Merci, Mohamed. Lors d'une des réunions que vous avez présidées, à cette époque, en tant qu'agent de liaison de l'ICG, j'avais préparé un résumé. Si vous voulez que je lise mon résumé bref, je serai prêt à le faire. Autrement, je peux ne pas le lire, bien sûr. Ça dépend de vous. Mais à ce point-là, mon résumé racontait quel était le travail du CCWG pour évaluer s'il avait un impact sur le groupe ou pas. Et pour voir quels étaient les résultats de la réunion. C'est à vous de décider. Mohamed prend la parole. Je pense que c'est une bonne idée d'entendre de nos agents de liaison. Alors, puisqu'il n'y a personne dans la liste d'intervenants, vous avez la parole. Allez-y, Kavous. Kavous Arasté prend la parole. Merci, Mohamed. Le CCWG a donc été créé pour renforcer la responsabilité de l'ICANN et ils ont établi une charte. Ils avaient créé aussi deux lignes de travail, la ligne de travail 1 et la ligne de travail 2, deux pistes de travail. Ces deux pistes de travail étaient les domaines dans lesquels la responsabilité ou la responsabilité renforcée devait être mise en place ou des domaines dans lesquels la communauté devait agir avant la transition. Leur deuxième rôle est la responsabilité générale après la transition, c'est le travail de la piste de travail numéro 2. Et donc, ils ont créé des dispositions qui tiennent compte des mécanismes de responsabilité qui existent à l'heure actuelle, les commentaires qu'ils ont reçus pour la responsabilité existante, 3, les commentaires venus du CWG en matière de responsabilité, et numéro 4, tout autre élément qui serait potentiellement nécessaire pour le groupe qui fournissait des contributions, et finalement, les différents points qui constituaient des sous-divisions. Les points étaient donc l'habitation de la communauté ou l'autonomisation de la communauté en matière des activités de l'ICANN et puis la rémédiation et le recours. Pour ce qui est de l'habilitation de la communauté, il y avait 6 domaines. L'autonomisation de la communauté en matière du conseil d'administration, le renversement ou la révocation d'un membre individuel, la révocation du conseil d'administration complet, la responsabilité des statuts constitutifs. Et finalement, ils ont conclu qu'il était nécessaire d'avoir 2 types de statuts constitutifs. D'une part, les statuts constitutifs normaux ou les articles standards et d'autre part, les articles fondamentaux des statuts constitutifs qui pourraient être appelés articles fondamentaux. Cela serait compris dans les questions qui portent sur la mission et les valeurs fondamentales de l'ICANN et sur certains engagements ou l'affirmation des engagements qui pourraient faire cela et de certains aspects de travail du CWG. D'autre part, ils travaillaient sur la rémédiation et ils se sont dit qu'il fallait avoir des valeurs fondamentales ou essentielles de l'ICANN, qu'il fallait également discuter du secteur de l'affirmation d'engagement qui devait être inclus dans les statuts constitutifs, dans les articles fondamentaux des statuts constitutifs et de la partie de l'affirmation d'engagement qui pourrait ne pas être nécessaire, qui pourrait être donc supprimée ou ne plus être considérée. Ils sont donc arrivés à la conclusion que cette partie-là devait également être préservée dans un document indépendant appelé procédure ou document fonctionnel, qui est une autre question. Après cela, ils sont arrivés au panel de révision indépendant, IRP, et donc à ce sujet, ils ont discuté de la composition du groupe, de la création du groupe et de la désignation des membres du groupe. Ils parlaient également des représentants du groupe et de si les décisions du groupe devaient être contraignantes ou pas. C'est tout ce qui a été discuté. Maintenant, pour ce qui est du travail de la piste de travail numéro 1, qui se divise en 6 domaines de responsabilité que je viens d'expliquer, la partie la plus importante de cette discussion, outre la révocation des membres du conseil d'administration et du conseil total, il y avait deux domaines très importants qui étaient le budget d'une part et puis le plan stratégique. C'est à travers cela qu'ils ont discuté de la possibilité d'autonomiser la communauté. Ils avaient deux conseillers juridiques, dont un avait conseillé sur le CWG. L'autre conseiller juridique avait été employé et puis ils avaient également un conseiller juridique qui s'occupait des aspects juridiques de la question. Et ils se sont dit qu'afin d'autonomiser la communauté, ils allaient devoir avoir l'autorité de demander ou de déposer une plainte auprès d'un tribunal. Ils allaient devoir avoir cette faculté juridique et que pour cela, ils allaient devoir avoir une certaine personnalité juridique, un statut juridique. Donc, les dispositions existantes ne prévoyaient pas cela et qu'il allait falloir apporter des modifications aux dispositions existantes qui devraient être nécessaires de ce qu'elles sont, qui seraient nécessaires de modifier par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Alors, pour ce qui est des catégories de dispositions possibles, il y en avait 3. D'une part, il y avait le désignateur tel que défini disait c'était les SO et les AC qui ont la capacité de désigner les directeurs qui votaient. Ils ont modifié cela par la suite et ils ont parlé de désignateurs s'ils étaient créés comme poste suivant la loi de Californie. Le désignateur aurait la capacité de révoquer un membre du conseil d'administration, le conseil complet et les différents types de désignation pour les statuts constitutifs pour le conseil d'administration. Mais ils n'auraient pas la possibilité de le faire pour le plan stratégique. Pour cela, ils auraient besoin d'un autre type d'adhésion suivant le modèle des membres. Ce modèle a besoin de plein de dispositions juridiques et pour cela, ils allaient devoir suivre un autre processus qui est celui des associations de fait qui regroupent des membres pour qu'ils puissent prendre une décision finale au sujet de la révocation du conseil d'administration complet. Tout ce processus a été établi et on a ici les dispositions de qui peut voter pour quel domaine. Tout cela a été inclus dans le document qu'ils ont présenté. Et en ce moment, ils en sont à la période de consultation publique. Les commentaires publics qu'ils ont reçus soulevaient un nombre de questions et catégorisaient les réponses. Et en ce moment, ils travaillent sur la mesure dans laquelle ils répondraient à la question et considéreraient la question de l'adhésion avec la communauté pour pouvoir répondre à cette question, pour voir comment ils pourraient faire que ce soit possible d'agir dans ce cadre. Donc, ils se sont dit qu'il y avait des possibilités comme le groupe de bénévoles, le groupe des désignés ou le groupe d'adhésion qui pourrait être créé. On a eu beaucoup de réunions, les gens ont beaucoup contribué, ils ont fait beaucoup de travail, c'est un groupe très efficient. Et ils ont organisé beaucoup d'activités au sein de ce groupe. Ils continuent toujours de discuter. Et la consultation publique a duré 30 jours au début, mais ils ont prolongé la période à 40 jours. Et ils sont en train d'élaborer en ce moment un document avec les commentaires pour pouvoir avoir une nouvelle version du document prête à un commentaire public à la fin de la réunion numéro 53 de la CAN pour une autre période de commentaires de 40 jours. Par la suite, ils vont modifier leurs propositions qui présenteront à la CAN, pas à la NTIA, à la CAN. Et la CAN aura donc le droit de faire des commentaires, de rejeter ou d'accepter la proposition reçue avant de la transmettre à la NTIA. Voilà mon résumé. Si vous avez quelque chose à ajouter, faites-le moi savoir, quitte.
OK. Thank you, Kavus. Thank you, Mohamed. That was an excellent...
Keith prend la parole. Merci Kavus et merci Mohamed. C'était un excellent résumé du travail, du processus et des procédures qui ont lieu au sein du CCWG. On vous en remercie, Kavus. De toute façon, j'ai quelques remarques à faire. D'une part, le fait que la période de commentaires publics pour le CCWG est conclue. D'abord, était censée conclure le 3 juin, mais elle a été prolongée pendant une semaine de plus afin que les documents traduits puissent être correctement considérés par les personnes qui dépendaient de ces documents et pas des documents en anglais. La période de commentaires publics, cependant, est déjà finie depuis 2 semaines et le CCWG a depuis travaillé sur une analyse et un résumé et un classement des commentaires publics reçus. Et le CCWG a une séance de travail d'une journée complète de 8h du matin à 6h de l'après-midi, du soir. Et il compte continuer de travailler sur l'analyse et le résumé des commentaires publics pendant cette séance, afin que pendant cette semaine prochaine et pendant les séances de sensibilisation avec la communauté, ils auront des ressources sur lesquelles se baser. Comme Kavus l'a dit, le but est de discuter avec la communauté pour aborder les commentaires publics, pour les incorporer à leurs propositions et puis pour pouvoir avoir une deuxième version préliminaire de la proposition à la fin de la réunion de Buenos Aires. Comme Kavus l'a dit, leur cible est d'avoir une deuxième période de consultation publique au début de juillet et puis finalement d'avoir une proposition révisée et approuvée par les organisations membres du CCWG de responsabilité à Dublin, c'est-à-dire à la fin d'octobre, la troisième semaine d'octobre. Pour cela, certains des groupes communautaires auraient la possibilité de pouvoir respecter cette date butoir parce qu'ils auraient donc une réunion en personne avant la date butoir. Voilà ce qu'ils espèrent. Pour l'ICG, une préoccupation clé seront les dépendances entre les propositions du CWG des noms et du CCWG de la responsabilité. Le groupe CWG des noms a déjà identifié différents domaines dans lesquels ils espèrent qu'il y ait des résultats venus de la piste de travail de la responsabilité. Ou il y a en tout cas des suppositions que certains résultats vont surgir de la piste de travail de la responsabilité et que, autrement, si ce n'est pas le cas, il y a d'autres questions qui vont surgir plus tard sur la proposition du CWG, de la transition. Alors, ce serait important pour ce groupe, pour les CG, de faire attention à ces dépendances, de faire un suivi des dépendances. Et donc, une fois qu'on aura conclu notre travail sur la proposition, ça pourrait être bénéfique ou nécessaire même pour nous, les CG, d'identifier spécifiquement ces dépendances sur la piste de travail du CCWG de la responsabilité. Je m'arrêterai là parce que Kavus a très bien résumé le travail du groupe. Ce n'était que quelques remarques que je voulais ajouter, et j'attends vos commentaires. Mohamed prend la parole. Merci Kavus et Keith. Ross, vous voulez prendre la parole? Ross Mandy prend la parole. Une question que j'ai, et je vous remercie de ce résumé. Agent de liaison, vous avez fait un très bon travail. Mais notre charte et notre plan, en réalité, n'impliquent pas d'interaction sensible avec le CCWG. Et ce que vous dites des dépendances du CWG par rapport aux actions du CCWG et du CWG, c'est très correct. Est-ce que vous avez des suggestions sur comment on pourrait nous assurer que l'on se rend compte des dépendances qui pourraient exister? Et en deuxième lieu, qui sera la personne qui déterminera si le CCWG et les résultats du travail de ce groupe abordent correctement ces aspects de ce que le CWG vise à faire. Oui, allez-y, Keith, dis-moi, Mohamed. Keith prend la parole. Merci, Russ. C'est une excellente question. Il me semble que les parties responsables de décider si ces critères ont été respectés ou pas, ou si ces dépendances ont été résolues ou pas, serait la communauté opérationnelle. Alors, on est toujours en train de travailler parce que les organisations membres n'ont pas complètement considéré la proposition du groupe CWG Transition. Mais je m'attends à ce que la proposition du CWG Transition va être approuvée cette semaine. C'est à ce que je m'attends. Il pourrait y avoir des réserves par rapport à des révisions qu'il faudrait apporter, par exemple, ou des certifications que la piste de travail de la responsabilité va livrer certains résultats. Mais on pourrait s'attendre à ce que la communauté opérationnelle des noms approuve ce document sous réserve des résultats de la piste de travail de la responsabilité et qui se réserveront le droit de réviser les résultats de responsabilité pour s'assurer qu'ils sont appropriés à leurs attentes. Donc peut-être qu'on pourrait expliquer d'abord pourquoi cela est si important à travers des exemples. Par exemple, le CWG a recommandé que l'on crée un PTI. Ce PTI serait une entité qui donnerait la possibilité pour la communauté et pour les clients de décider de séparer l'IANA de l'ICANN. Ce serait dans les circonstances les plus graves que l'on puisse imaginer, bien sûr. Mais pour le groupe de travail de responsabilité, il faudra que l'on considère comment la communauté pourrait appliquer ses pouvoirs. C'est une question très importante au sein du groupe de travail de la responsabilité en ce moment. Est-ce qu'il faudrait une application juridique ou est-ce qu'il faudrait un autre type de, ou un autre niveau de réponse juridique? Mais la proposition du CWG de la transition assume qu'il y aura un certain niveau d'applicabilité ou un niveau d'accord avec ce que propose le CWG. Si ce n'est pas le cas, on aura cette question de ce qui pourrait se passer si le processus du PTI était initié, si on comptait le séparer de la CAN. Et le conseil d'administration de la CAN pourrait très bien dire non, on vous en remercie, mais ça ne nous intéresse pas. Donc c'est un des domaines dans lesquels le CWG et sa proposition assumeront un certain niveau d'applicabilité. Si le cas est que ce niveau d'applicabilité n'existe pas, cela va nous faire remettre en question la viabilité de la proposition même, la réalisabilité de cette proposition. Je ne sais pas si Kavous veut ajouter quelque chose d'autre. Mohamed donne la parole à Kavous. Kavous prend la parole. Non, merci, Keith. Vous avez très bien répondu. Mais je voudrais attirer l'attention de Russ Mundy sur le fait que d'abord, en ce qui concerne le rapport entre le CCWG, et l'ICG, il n'y a pas de relation entre les deux. L'ICG n'espère pas des résultats du CCWG pour pouvoir consolider sa proposition pour la NTIA. Cependant, le lien entre le CWG et le CCWG implique l'ICG de manière indirecte. Pour pouvoir fournir davantage d'informations, le CWG, le 15 avril, a fourni 5 domaines dont le CCWG devrait s'occuper. Le plus important est le budget de l'ICANN. Ils disent qu'il serait possible de faire des commentaires sur le budget, en particulier pour le PTI. Ils ne veulent pas que le budget du PTI dépende de l'ICANN, parce que dans ce cas, l'ICANN pourrait avoir une influence là-dessus, sur le travail du groupe à travers le budget. D'autre part, ils parlent de l'autonomisation de la communauté, en particulier en ce qui concerne la capacité de la communauté de réviser les décisions du conseil d'administration de l'ICANN. De réévaluer les décisions du conseil d'administration de la CAN à travers un panel de révision indépendant. En ce moment, ce panel est composé de 3 membres et c'est une question complexe. Il y a 7 personnes qui l'intègrent, mais ce ne sont que 3 membres qui vont décider. Dans une autre version, il parlait d'une seule personne qui va décider sur une question et la communauté pourrait ne pas être d'accord avec cette décision. Donc la communauté a dit qu'on ne pouvait pas émettre des décisions qui seraient uniquement soutenues par une ou trois personnes qui ne sont pas élues, parce que la procédure en ce moment est que l'ICANN propose un candidat et que le candidat devait venir de la communauté, pas de l'ICANN. Ils ont dit qu'il aurait également des possibilités d'avoir des arbitrages internationaux également. Et on est d'accord avec cela, mais on n'est pas d'accord avec la possibilité des arbitrations internationales, des arbitrages internationaux. Donc, si on n'a pas des modèles de membres, par exemple, qui soient conformes avec la loi californienne, la communauté n'aurait pas la possibilité de rejeter le budget. C'est également une question à considérer. D'autre part, on a un mécanisme qui porte sur la question du panel de révision indépendante. Et numéro 4, c'est la question de l'appel, du recours d'appel comme mécanisme. C'est une question qui est discutée au sein du CCWG et qui n'a pas été répondue pour l'instant. Si on n'a pas une réponse qui nous satisfasse, le CWG n'aura pas de proposition mise en place et nous, l'ICG, n'aurons pas d'idée de comment traiter la proposition du CWG. Donc il faut que l'on consacre nos efforts cette semaine au CWG et puis que l'on continue à travailler dessus. Nous, en tant qu'agent de liaison de l'ICG, devons soulever les questions comme on l'a déjà fait auparavant et nous devrions dire que nous sommes indirectement impliqués, mais qu'il faut que l'on ait ces informations pour pouvoir avancer. La question, de toute façon, est tout à fait complexe, comme je l'ai dit. On a différents domaines qui impliquent un conseil juridique nécessaire, et dans certains domaines, ces questions posent toujours des problèmes, même si, par exemple, il y a des problèmes sur si le siège de la CAN devrait être aux États-Unis ou pas, par exemple, ou s'il devrait y avoir un accord ou pas. S'il devrait y avoir un contrat ou pas. Et puis, si le siège de l'ICANN devait être aux États-Unis, si cela devrait être prévu dans les articles fondamentaux des statuts constitutifs ou pas, si cela exige 75 ou 80% des votes, ou si les statuts constitutifs fondamentaux devraient requérir 66%. Alors, on est un peu coincé ici. On remercie de toute façon tous les membres du CCWG qui travaillent beaucoup. Merci, Kavus et Chris et moi-même. J'ai beaucoup de personnes qui souhaitent intervenir, donc il faut que tout le monde soit bref. Je reviendrai à vous, Chris. J'ai donc Milton, Alissa, Chris. D'abord, Joe. Joe, allez-y. Joe Ladef prend la parole. Merci. Ce qui me surprend, c'est que lorsque vous avez présenté ce problème, on parlait des différents détails qui portaient sur cette question. Et chacun de ces détails pourrait constituer en réalité un déraillement pour la proposition du CCWG. Et le CCWG pourrait peut-être ne pas conclure son travail avant octobre, supposant qu'il puisse prendre des décisions. Il me semble que cela commence à entrer dans les détails de notre discussion concernant l'échéancier, parce que je ne sais plus comment on pourrait agir, sachant qu'il pourrait y avoir des problèmes avec la date butoir, que ces questions pourraient être abordées, mais pas avant la révision. Je ne sais pas si la NTIA, en fait, s'attend à cette possibilité de leur répondre à ce concept de proposition plus tard. Je pense que c'est une question très grave. Je ne sais pas très bien comment nous allons nous en occuper, mais je pense qu'il faut que l'on fasse plus que simplement souligner le fait qu'il pourrait y avoir des problèmes, parce que on dirait que la NTIA veut que toutes ces questions soient résolues avant que la NTIA considère la proposition pour approbation, avant de continuer. Donc, ceux qui sont plus impliqués dans le processus pourraient avoir une opinion. Mais, ayant entendu toutes les discussions, on pourrait peut-être attendre un peu plus. On est trop préoccupé par rapport à cela. Mohamed donne la parole à Alissa. Alissa prend la parole. Je pense qu'une manière simple de prévoir cela est que, sachant que le CCWG essaie de présenter une proposition aux ESSO et aux AC pour qu'ils puissent l'approuver à la fin septembre, nous, en tant qu'ICG, pourrions prévoir de demander au CWG À ce moment-là, s'ils sentent que la proposition de CCWG est bien conclue, s'ils respectent toutes les exigences nécessaires de l'autre groupe, et nous espérons que la réponse sera oui. Si la réponse est non, il faudra que l'on décide quoi faire à ce point-là. Mais il ne faut pas que l'on décide dès maintenant, je pense. Je pense que cela, en même temps, est limité aux différentes parties de la proposition de CCWG qui sont liées à la signature. Donc, si le CCWG a des problèmes avec d'autres parties de la proposition, on n'est pas coincé là-dessus. Mais ce serait bon que l'on puisse planifier, prévoir et vérifier avec le CWG au moment où leur travail est censé être conclu pour pouvoir déterminer si le CWG sent qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin des autres groupes. Donc, voilà ce que je propose de faire. Mohamed donne la parole à Milton. Allez-y, Milton.
Yeah.
Milton Müller prend la parole. Mon opinion est un peu différente de celle d'Alissa. Je suis d'accord avec Keith du fait qu'il s'agit d'un processus interdépendant. Et je crois que la seule solution est que la proposition finale que nous allons présenter à la NTIA doit être ouverte aux commentaires publics en même temps que la piste de travail 1 du CCWG. Je crois que Keith a aussi mentionné le problème de la révision des fonctions YANA. Parce que là, l'autorité de la communauté que l'on va, c'est-à-dire le nouvel opérateur que l'on va changer, a trait aux articles fondamentaux des statuts constitutifs de l'ICANN. Et l'opposabilité de ces statuts et de ces articles que le CCWG a aussi et qui n'a pas accepté comme partie du plan du CWG, que ce n'est pas le type de responsabilité qui va respecter les critères d'après l'opinion de plusieurs parmi nous. Ces deux questions doivent être approuvées. C'est vrai que le CCWG fait beaucoup de travail qui ne doivent pas être mélangés avec notre travail à nous. Mais ces questions ne sont pas très clairement définies. Et il y en a qui ne comprennent pas que la piste de travail 1 du CCWG, c'est-à-dire tout ce qui doit arriver avant la transition, et puis il y a une piste de travail 2 qui a trait au reste des questions. La piste de travail 1, c'est développer beaucoup plus de ce que l'on pensait. Par des problèmes juridiques et par les statuts fondamentaux de l'ICANN, ainsi qu'avec l'opposabilité des réformes. Et je crois, je ne dirais pas que ceci peut faire rater notre processus, mais plutôt le ralentir. Et il faut savoir clairement quels sont les changements pour voir si cela peut fonctionner comme nous voulons ou si, par contre, les résultats peuvent être inattendus. Avant de mettre notre sceau dans la proposition du CWG, dans la proposition finale, il faut savoir ce qui se passe avec la piste de travail numéro 1 du CCWG. Mohamed Al-Bashir. Passe la parole à Keith Drazek. Merci Mohamed et merci Milton d'avoir clarifié ce que j'ai mentionné. Je voudrais clarifier encore une chose de plus. Et moi, je n'ai pas voulu suggérer que les organisations membres dans la proposition du CWG doivent réapprouver ou voter encore une fois prochainement, mais plutôt que le CCWG responsabilité respecte les attentes ou les hypothèses qui ont été incluses dans la proposition de transition du CWG. on peut le faire en écrivant une lettre, en envoyant une note et disant oui, le résultat du CCWG responsabilité respecte nos hypothèses, ou sinon donner des commentaires pendant la période de consultation publique dans le processus du CCWG responsabilité. Cela ne veut pas dire que l'on ait besoin d'une autre révision formalisée avec des votes formalisés, mais plutôt qu'il s'agit d'une révision et de dire, eh bien, voilà les hypothèses. Et si les hypothèses ne sont pas là, alors là, il y a de nouveaux soucis. Mais je voulais bien faire comprendre mes commentaires. Mohamed passe la parole à Lynn Saint-Amour. Merci, Mohamed. C'est un groupe de changement très rapide et très complexe entre le travail du CCWG et du CWG. C'est le plus complexe de tous les groupes que nous avons dans notre processus. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine d'organiser un groupe pour voir et analyser quelles sont les conséquences possibles dans tout le processus. En même temps, on pourrait demander à la communauté de développer le même processus pour voir quelles sont les exigences du CWG qui sont imposées au CCWG et quelle pourrait être l'évaluation des conséquences possibles de la proposition. Je crois qu'il s'agit d'une question raisonnable pour tous ceux qui n'appartiennent pas au processus, tous ceux qui sont en dehors du processus et leur demander, eh bien, vous avez consacré du temps pour évaluer les conséquences, vous en avez pensé, parce qu'il va y avoir des conséquences non prévues de tout ce processus. Mais je vois que l'ICG ne veut pas jouer ce rôle. Et si on ne va pas le faire, il faut trouver la manière de poser les questions correctes à la communauté et que la communauté puisse voir comment ça fonctionne. Et comme je l'ai dit au tout début, il ne s'agit pas de « et » ou « où il faut poser la question à tout le monde. Quelles sont les actions que l'ICG peut prendre ou peut entreprendre dans les mois qui viennent pour voir comment on développe le travail du CCWG et du CCWG? Et il faut le penser au sein des communautés et voir sinon quelles peuvent être les conséquences possibles. Mohamed. Merci, Lynn. Je crois qu'il est très important, que cela est très important. Il est important de signaler toutes ces questions dès que possible. Alice Cooper prend la parole. Merci, Mohamed. Je voudrais répondre à Milton parce que vous avez dit que on n'était pas d'accord. Et je crois que oui, que nous sommes d'accord. Je suggérais, et ce n'est peut-être pas important pour la nature de la proposition, mais ce que je suggérais, c'est que si la proposition du CCWG est finie, alors il faut aller au CWG et demander si on respecte toutes les exigences de ce groupe. Rien que ça, cela veut peut-être dire qu'ils doivent être d'accord avec toute la proposition du CCWG. Parce que toutes les composantes sont nécessaires pour le CWG. Et alors, on pourrait se baser sur ça. C'est ce que je voudrais dire. Mohamed Al-Bashir, merci Alice. Qu'à vous, ça reste de prendre la parole. Je crois que le processus du CCWG est un peu plus complexe que ça. Comme je l'ai dit, il y a six domaines qui ont besoin du renforcement du pouvoir de la communauté. Il y en a quatre qui peuvent être plus facilement mis en œuvre, mais il y en a deux, à savoir le plan stratégique et le budget, sont très difficiles parce que si l'on veut rejeter le budget ou le plan, il faudra se trouver dans une position d'avoir la capacité, c'est-à-dire pouvoir présenter une demande auprès d'un tribunal. Alors, il y a encore autre chose qui a trait à la reconsidération, mais le réexamen, c'est-à-dire on peut le demander à l'ICANN de réexaminer les questions. On peut dire, ils peuvent dire, eh bien, on est d'accord ou non. Et si on fait un autre commentaire, on peut avoir une deuxième demande de réexamen. mais il n'y a pas un nombre illimité de réexamens. Alors, tout cela a trait aux considérations du CCWG. Pour ce qui est des propos de Milton, ce n'est pas le statut, mais c'est plutôt la question du budget et du plan stratégique. Récemment, le conseiller juridique a ajouté un autre axe de travail, à savoir la vision des fonctions IANA. Et c'est le septième axe de travail qui exige que le comité ait des facultés pour ce faire. C'est-à-dire, je suis d'accord avec Alissa du fait qu'il faut se poser les questions et nous baser sur certaines hypothèses, à savoir que cela va être résolu. Et si cela n'est pas résolu, il va falloir reconsidérer le plan. Il faut être actif sur cette question qui est très complexe. Et cette complexité est aussi pour les organisations membres sur la manière dont ces organisations vont répondre à ces problèmes. Ils peuvent dire on n'est pas d'accord et alors là on ne sait pas comment ça va se passer. Et ce sont des questions qui exigent des réponses et qui font partie de la complexité de toute cette question. Mohamed passe la parole à Ross. Ross Mandy, merci Mohamed. Je voudrais parler pour la suggestion de Lynn il y a quelques minutes du fait que l'ICG devrait considérer de demander à toutes les communautés opérationnelles d'analyser la structure qui est en évolution et qui surgit du CWG et du CCWG pour voir, au cas où il y en aurait, quels sont les impacts sur les propositions qui ont déjà été présentées et comment on pourrait faire l'approche de mise en œuvre. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Les RIR et l'IETF ont des accords en vigueur avec l'ICANN. Et s'il y a une entité légale toute nouvelle qui est créée, au moins ces communautés doivent penser à la façon dont ceci peut porter atteinte à leur accord juridique en cours. Et dans ce cas, il faudrait faire des modifications parce que je crois que lorsque les deux autres propositions ont été présentées, le concept de la PTI n'avait pas encore été formulé et cela pourrait avoir sans doute un impact important. Mohamed, merci Ross. Milton Müller prend la parole. J'ai oublié de faire une observation qui complique les choses encore davantage. Le nouveau .com, la nouvelle loi .com exige que la piste de travail 1 du CCWG soit mise en œuvre avant que la NTIA puisse faire quelque chose. Je ne suis pas très sûre si cela a été approuvé ou pas, mais je crois que l'administration a dit que l'on n'avait pas s'opposer à cette loi. Alors, probablement, ceci exigera à la NTIA d'imposer la fin et d'avoir complété la piste de travail 1 pour le processus de transition. Ceci a trait avec les propos de Lisa. Il faut penser au CWG et au CCWG à la proposition que nous présentons. Il faut penser à cela comme des éléments intégrés. Alors, la procédure qu'elle a suggérée fonctionnerait très bien dans le sens que nous pourrions voir le CWG et puis la réforme de la responsabilité du CCWG. Alors là, on pourrait dire à la communauté des noms, vous pouvez travailler ensemble, c'est bien. Alors là, on aurait une proposition complète. Mais je crois qu'on ne peut rien faire jusqu'à ce que l'on ait considéré que la piste de travail 1 soit finie. Et encore une autre complication qui a trait aux propositions. Les procédures suggérées peuvent ne pas être un problème, mais techniquement, nous sommes les responsables de la proposition pour la transition du rôle de supervision des fonctions IANA, mais l'ICANN est en charge du processus de réforme du CCWG. C'est l'ICANN et pas nous. Alors, Je crois que le mécanisme de supervision ou de protection chargé de faire ce travail doit nous montrer ce que la communauté des noms a accordé et quelles sont les réformes qui peuvent nous affecter pour savoir si l'on peut aller de l'avant ou pas. S'ils sont unifiés, on peut le faire. Voilà mon avis. Mohamed, merci Milton. Je passe la parole à Yari, à Martin, et ce sont les deux dernières interventions. Yari Arco prend la parole. Ceci est lié au propos de Russ et Milton. En premier lieu, on a la question de la nouvelle structure juridique et comment cela peut affecter les autres communautés. Nos réponses au calendrier publié, eh bien, nous avons dit que si l'on continuait avec les contrats existants avec l'ICANN, nous étions prêts pour avancer dès que possible, aujourd'hui même si c'était possible. S'il fallait encore autre chose de notre part, et je ne suis pas vraiment sûre s'il y aurait un motif pour cela, mais s'il y avait le besoin d'autres accords ou contrats, il faudrait faire des travaux supplémentaires. Autre chose à dire, ce commentaire a trait au travail dans le domaine de la responsabilité et son rapport avec la proposition pour la transition ou tout l'effort consacré à la transition. Je veux signaler que la proposition de l'IETF ne dépend aucunement du travail et des résultats du CCWG. C'est bien qu'il travaille, mais il ne dépend pas. Je crois que c'est là où nous pouvons revenir à la discussion préalable et parler des propositions complètes, des plans complets. Mais pour la mise en œuvre, il est nécessaire de comprendre les dépendances. À notre avis, l'étape de mise en œuvre, eh bien, on pourrait avancer avec la mise en œuvre et même avant que le CCWG ait fini son travail. Je ne prends pas une position par rapport au gouvernement des États-Unis ou au Parlement des États-Unis, mais du point de vue des faits, je crois que cette relation n'existe pas. Mohamed, Martin a la parole. Martin Boyle reprend la parole. Merci, Mohamed. À vrai dire, j'ai demandé la parole pour quelque chose que Milton nous a dit. Je crois que je l'ai entendu dire qu'avant de pouvoir passer aux consultations, il nous faut avoir la proposition du CCWG pour la piste de travail 1, ce qui n'aura pas lieu jusqu'à la fin septembre. Et j'ai l'impression que ceci établit une barrière innécessaire pour notre travail et pour l'étude complète ou intégrale que nous devons mener à bien. Lorsque le CCWG présentera sa proposition, pour nous, il devrait être simple d'avoir recours au CCWG qui, à l'époque, n'existera plus, j'imagine, mais supposons qu'il existe. Et là, on pourrait demander si la proposition du CWG respecte leurs besoins. Et il est possible que le groupe intercommunautaire de travail sur la transition de la communauté des noms ait dit ce qu'il attend, ce dont il a besoin pour que la proposition soit tout à fait complète. Alors là, dire, c'est ce que l'on attend, c'est ce que l'on demande. Et le CCWG a pris en compte tout cela et nous allons travailler là-dessus. Alors, je ne vois pas pourquoi il faut attendre à ce que la proposition finale arrive si nous pouvons aller de l'avant avec la condition qu'à la fin, nous puissions dire le CCWG a présenté ce dont le CCWG a besoin. Et l'ICANN a accepté cela et a commencé à mettre en action toutes ces pièces. Merci, Mohamed. Merci, Martin. Je crois que nous allons clôturer la séance et nous allons faire notre pause café. Mais Milton, si vous me permettez, je vais essayer de résumer ce qui a été dit ici. Je crois que on est presque tous d'accord du fait que nos agents de liaison doivent continuer à travailler avec les activités du CCWG, nous dire s'il y a des questions pouvant affecter notre évaluation. Et Lynn a proposé de faire un groupe, d'organiser un groupe réduit pour voir le travail du CCWG et voir comment ceci pourrait affecter l'évaluation de la proposition du CWG et la formulation de la proposition définitive. Y a-t-il des volontaires voulant aider peut-être les agents de liaison? Voulez-vous passer, faire partie de ce groupe? Milton? Milton et Lynn? OK, merci beaucoup. Cavus, allez-y, Cavus prend la parole. S'il y a des groupes, Keith et moi, on sera automatiquement concernés dans ce travail. Alors, on ne peut pas échapper, Mohamed. Oui, il y a plein de monde qui nous aide. Alors, on va clôturer la séance, on va faire la pause café et on revient à 15h15. Merci beaucoup.